La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et du 200e numéro de la mêlée de l'info. Merci de rester fidèle à nos débats consacrés à l'actualité nationale. Voici ceux qui participent à cette émission aujourd'hui. Je salue Mathieu Sauce, secrétaire général de la Fédération du Parti Socialiste de Haute-Garonne, membre du Conseil National du PS. Je salue aussi Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du Parti Les Républicains. Et je salue enfin Ulrich Terrier, référent GERS des Jeunes avec Macron, membre du Conseil National du Parti Renaissance. Bienvenue aussi à vous trois, merci d'être au rendez-vous de ce 200e numéro de la mêlée. Je vous propose de nous intéresser d'abord au premier pas de Sébastien Lecornu à Matignon. Depuis sa nomination il y a une semaine, le nouveau Premier ministre a rencontré entre autres les chefs de parti et les dirigeants patronaux et syndicaux. Son gouvernement n'a pas encore été formé, mais il a déjà fait quelques annonces. Il a l'intention d'abandonner la suppression de 2 jours fériés envisagée par son prédécesseur François Bayrou, de lancer une nouvelle réforme de décentralisation et de supprimer les avantages dont bénéficient les anciens ministres. Que pensez-vous des débuts de Sébastien Lecornu, de sa manière de procéder pour former son gouvernement? Et quelle politique à venir entrevoyez-vous après les premières annonces et déclarations qu'il a pu faire jusqu'alors? Je donne d'abord la parole à Mathieu Sauce.
Oui, non, suite aux questions, je me disais, mais c'est un petit peu compliqué de parler de début, puisque de toute façon, tant que les différentes rencontres des différentes forces politiques qui composent l'Assemblée nationale n'ont pas abouti, ne sont pas arrivées à terme, il est difficile de savoir sur quelle est la position qu'il adopte sur les différentes mesures. Sur la première position qu'il a eue, en l'occurrence de revenir sur les avantages des ministres sortants du gouvernement, donc des ministres, on peut les qualifier de retraités. Bon, écoutez, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je vais peut-être aller à l'inverse. Moi, j'y vois un petit peu de démagogie. Je ne vois pas grand-chose parce que, très honnêtement, de quoi bénéficiaient les ministres qui étaient plus en place? Ils bénéficiaient d'un secrétariat. Ils bénéficiaient...
Tu parles des premiers ministres.
Des premiers ministres, je corrige, pardon.
Oui, parce que c'est important c'est vrai, de ne pas entendre n'importe quoi par rapport à tout ça.
C'est totalement vrai. Ouais. C'est totalement vrai. On a souvent, d'ailleurs, le terme a été utilisé des ministres et ça a été corrigé notamment par Michel Sapin sur un plateau télé quelconque. Parce que, en l'occurrence, c'est le Premier ministre. C'est
les premiers ministres.
Donc, les premiers ministres bénéficiaient d'un secrétariat, grosso modo, d'un chauffeur avec voiture de fonction et de possibilité d'avoir une indemnité de 3 mois, je crois, lorsqu'il quittait le pouvoir en fonction... c'était déjà objectivement des mesures très encadrées. parce que les ministres ne gardaient pas leur avantage si jamais ils avaient un mandat électif différent, s'ils repartaient, et peu de ministres étaient en réalité avaient ces avantages-là. Donc c'est bien parce que ça va dans le sens de la symbolique et des efforts, comme quand on demande de faire des efforts à l'ensemble des Français, c'est bien aussi qu'on mette à l'effort les premiers ministres. Pour autant, attention de ne pas flirter avec la démagogie sur la réalité des chiffres. Voilà, c'est de l'ordre de peanuts au niveau des économies réelles pour l'État. Donc là-dessus, bon, pourquoi pas, c'est une première annonce. Par contre, il se trouve que il a rencontré les membres du parti, les trois, du Parti Socialiste, en l'occurrence le président du groupe à l'Assemblée nationale, le président du groupe au Sénat et le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure. Suite à ça, on n'a pas les retours, pour ainsi dire, de ce qu'il a pensé. Moi, ce que je vois, c'est que on a eu, suite aux déclarations de Bayrou, un travail qui a été effectué par le Parti Socialiste, en l'occurrence une contre-proposition budgétaire qui a été formulée, où on estimait qu'il fallait pas des 44 milliards d'économies à faire, mais on était plutôt sur une base de 22 milliards d'économies à faire, avec un véritable sens de l'investissement aussi, parce que quand vous économisez dans un budget, il faut aussi avoir la capacité de se dire que ça ne peut pas être chaque année, il faut créer les conditions de relance potentielle de l'économie française, et ça ne peut pas être fait que en retirant, supprimant. Il faut aussi investir pour créer des richesses, pour qu'après le budget soit amélioré. Donc tout ça, on pourra y revenir dans un second temps, mais il y avait cette volonté-là du Parti Socialiste d'être constructif. Il se trouve que suite à la démission de Bayrou, on aurait souhaité que, enfin, j'allais dire, le déni de démocratie qui a été fait depuis 2 ans, que Macron revienne sur ce déni de démocratie. C'est pas en tout cas ce qu'il a fait, puisque je rappelle que les législatives, alors certes, il n'y avait pas de majorité absolue qui se dégageait des résultats des législatives, mais il y avait un groupe politique formé du NFP qui était arrivé en tête à l'époque de ces législatives-là, hein, de l'issue de la dissolution. Et encore une fois, Macron a empêché ou n'a pas nommé un ministre de gauche, n'a pas donné la main à la gauche pour essayer d'établir un programme qu'on avait mis en place, un contre-budget budgétaire, et surtout de rendre le pouvoir à l'Assemblée nationale avec des recherches de majorité, ce qui aurait été fait sur chaque pan de politique qui était à mener. Donc il n'a pas souhaité s'inscrire comme ça, il a nommé le cornu. Le cornu, pour moi, en tout cas l'image que j'en ai, moi, on n'est plus pareil que Bayrou. Bayrou, il y avait eu une tension entre les deux hommes, c'était une sorte de cohabitation, coalition.
Bah, on avait beaucoup dit que François Bayrou avait un peu
mais,
forcé la main.
Mais voilà, il y avait une sorte de, quand même, de truc qui s'établissait, qui respectait un peu ce qu'était la Ve République, lorsque le pouvoir législatif n'est pas la majorité absolue équivalent avec l'exécutif. En fait. Bon, il se trouve que là, on est plutôt dans une nomination d'un Premier ministre issu du même rang que le président de la République. Donc on est tout sauf dans une cohabitation. On est dans un principe de gouvernement nommé classiquement par un président de la République. Donc je ne vois pas comment l'instabilité politique créée par la démission de Bayrou trouver une issue favorable. Donc pour l'instant, il faut attendre bien sûr ce qui va se passer. Mais en tout cas, en tout état de cause, je sais cet après-midi, pour avoir lu comme les autres personnalité autour de la table, la presse parisienne, on sait déjà qu'à Renaissance, ils préparent la dissolution. Donc, je ne crois pas que le cornu ait pour mission d'éviter cela. Moi, au contraire, je pense que c'est un gain de temps de pousser des retranchements, de créer d'autres divisions dans les autres oppositions, pour se mettre en ordre de bataille dans la dissolution qui va s'annoncer dans les mois qui viennent. En tout cas, c'était les propos d'Attal auprès de ses militants aujourd'hui même, avec les préparatifs, et c'est des fuites que vous avez dans la presse parisienne. Je vous invite à trouver ça sur Google, ça doit être déjà en ligne. Ouais. Voilà.
On avait abordé la possibilité d'une dissolution lors de l'émission précédente, on ne va pas y revenir dans l'immédiat. Jean-Baptiste de Scora, et vous, qu'est-ce que vous inspire les premiers pas de Sébastien Lecornu à Matignon, sachant qu'il est issu tout de même à la base de votre camp, du Parti Républicain?
J'ai plutôt un sentiment de confiance vis-à-vis de Sébastien Lecornu. Je le connais bien. Je le connais d'autant plus que sa binôme au conseil départemental était issue des Républicains et à l'époque de Sens commun comme j'y étais. Et nous avons décidé ensemble de partir au moment où effectivement, il y avait une alliance qui, pour moi, était contre nature avec Éric Zemmour. Et donc, l'image qu'il a donnée en étant capable, même si c'était au départ dans ses convictions aussi, de s'allier avec une personne humaine qui a des convictions fortes, je trouve que c'est déjà quelque chose d'intéressant.
Pour vous, c'est un bon signe.
C'est un bon signe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert et qui est capable de passer certaines
outre les convictions qui ne sont pas tout à fait les siennes.
J'en sais rien, si, je pense que si, puisqu'il avait été, on lui reproche maintenant, d'avoir été contre le mariage pour tous. Mais bon, d'avoir des convictions, ça n'a jamais tué quelqu'un. Et ça, c'est une des premiers éléments que je constate. Je ne pense pas, comme le dit Mathieu, que notre Premier ministre est un bébé Macron. Je pense qu'il est assez grand. Il a eu quand même une grande culture du terrain. C'est quand même quelqu'un qui a été à différents postes. Oui. Maire, conseiller, président de conseil départemental, président, ministre plusieurs fois. Et je crois qu'il est capable, un homme de terrain, vraiment de terrain, il est capable de parler à tout le monde et de s'ouvrir à tout le monde. Et moi, c'est ce que j'espère. C'est que je ne défends pas un gouvernement macroniste, je défends un gouvernement qui va essayer de maintenir effectivement la France la tête hors de l'eau pendant les mois qui nous restent jusqu'à effectivement la future élection présidentielle.
C'est plus que des mois, hein, c'est un an et demi. Hein.
Oui, mais enfin, ça passe vite. Hein. Nous avons les élections municipales avant, etc. Donc tout ce que j'espère, c'est qu'il puisse tenir. Moi, je suis contre, effectivement, une dissolution aujourd'hui qui remettrait encore la France dans le chaos. Je crois qu'il a les moyens, effectivement, de tenir avec, effectivement, des contreparties. Alors, bon, là, on parle des jours fériés. C'est vrai que, moi, je trouve que ces jours fériés, c'est quelque chose qu'il faut... il fallait peut-être au moins un à maintenir, mais... je pense que quand j'ai discuté avec le terrain, quel que soit le milieu social, quelles que soient les origines, quelles que soient les idées politiques, tout le monde était contre. Donc je pense que ce qu'il a fait, il a bien fait de le faire.
C'était un leurre. Hein.
Oui, oui.
On n'y a jamais cru.
Je pense que c'était le fait d'agiter ça et au dernier moment, quand on fait en négociation, de pouvoir le retirer, peut-être. Mais là-dessus, on est d'accord. Alors la suppression des avantages, oui, je suis un peu d'accord avec Mathieu. Moi, je me bats en ce moment en expliquant les contre-vérités que l'on peut entendre, puisqu'on n'entend que des contre-vérités sur le fait que les gens croient qu'ils sont payés à vie, que ceci, que cela, que tous les ministres,
les ministres
n'ont aucun avantage en sortant de leur mandat, si ce n'est d'avoir, je crois, 2 mois ou 1 mois, ce qui est un peu logique, si ils n'ont pas trouvé de travail. Mais je pense qu'effectivement, c'est quand même bien que certains premiers ministres qui ont... je dirais, des âges bien avancés, ne bénéficient plus de tous ces avantages. Mais je pense qu'il y a d'autres catégories, et je l'ai lu dans un article, je ne sais plus quel homme politique disait, que d'autres catégories socio-professionnelles qui ont plus d'avantages que le Premier ministre. Je parlerai en particulier des aiguillères du ciel, donc sur lequel aussi il faudrait peut-être regarder. Et c'est ceux qui sont souvent, pas tous, mais souvent le plus en grève, et c'est ceux qui gagnent le mieux leur vie. Donc je pense qu'il y a aussi du travail à faire là-dessus. C'est un signe qu'il faut prendre. Bon, je pense que je suis un peu d'accord avec Mathieu, c'est pas une grande garantie d'économie pour l'État, mais moi, contrairement à Mathieu, je pense que les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc voilà, c'est un peu tout ça qui va s'additionner, qui va nous permettre peut-être de sortir la tête de l'eau.
Ulrich Terrier, après ces deux premières interventions, vous, quel est votre sentiment après la première semaine, maintenant presque 10 jours, de présence de Sébastien Lecornu à Matignon?
Alors chez nous, à Renaissance, on est toujours dans une posture plutôt d'ouverture et de compromis, comme l'a annoncé Gabriel Attal depuis maintenant plusieurs mois. Sébastien Lecornu est un homme d'une nouvelle génération, il a 39 ans, donc il a des choses à montrer. Il a déjà été, comme vous le disiez justement, élu dans des territoires. Il connaît bien le département de l'Eure pour y avoir été président du conseil départemental. Il a d'ailleurs écrit au maire de toute la France hier ou aujourd'hui. Et donc cela montre déjà qu'il y a cette volonté d'aller vers les territoires et de consulter les élus locaux qui sont en ligne, en première ligne face aux citoyens. Et puis c'est un bon présage pour l'avenir. Ensuite, Sébastien Lecornu, c'est quelqu'un qui a été ministre depuis 2017, donc ça fait maintenant 8 ans qu'il est aux responsabilités. Il est ministre des Armées depuis 2022. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience gouvernementale et qui pourra donc mettre à profit toute cette expérience en tant que Premier ministre. D'ailleurs, je tiens à dire que lors de son passage aux armées, il a été apprécié par grand nombre des personnes qui composaient ce ministère. Ensuite, sur la manière de procéder et pour former le gouvernement. Je pense que c'est salutaire d'avoir un Premier ministre qui consulte, qui prend le temps de consulter tous les partis politiques, les syndicats, les corps intermédiaires. Cela prouve qu'il y a une volonté de dialogue et d'ouverture, une réelle écoute, ce qui peut-être a manqué avant. Et puis également, ce n'est pas un gouvernement pour avoir un gouvernement. Aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement qui... règle les problèmes des Français. Les Français nous le disent tous les jours, ils en ont marre d'avoir de l'instabilité dans le pays, ils en ont marre de ne pas savoir où va aller la France sur le budget, sur les armées, sur le pouvoir d'achat. Et puis également, Sébastien Lecornu, il a annoncé des premières mesures sur la politique qu'il voulait mener. Il a parlé d'une politique de rupture, et pas que sur la forme. Et pas que sur la méthode non plus, c'est-à-dire des ruptures aussi sur le fond. Et ça, c'est très important parce que les Français le demandent d'avoir un changement. Et donc, je pense qu'il est arrivé un temps où il faut les écouter parce que le décalage qu'il y a entre la situation politique, les hommes et les femmes politiques et ce que ressentent les Français, ce n'est plus possible et ça nourrit justement les extrémismes et le populisme. Et donc, il est grand temps de résorber ce décalage. Donc, il y a eu une première mesure, on vient de l'évoquer, avec justement la suppression à vie des avantages dont pouvaient bénéficier les premiers ministres. Je trouve que c'est une bonne mesure symbolique, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui travaille et qui rompt son contrat n'a pas des avantages, des indemnités à vie. Cependant, il faut quand même garder en tête que ça ne va pas tout régler. Ça représente malheureusement qu'une toute petite partie du budget de la France. On parle vraiment de quelques millions d'euros. Alors vous me direz que c'est beaucoup, mais à l'image du budget français, malheureusement, ça ne va pas résorber le déficit. Et donc, il faut faire aussi quand même attention à toutes ces mesures, parce que certes, celle-ci va dans le bon sens, mais ne pas tomber non plus dans la démagogie, comme certains voudraient nous le faire croire, que les politiques vivent dans un monde parallèle.
Alors, vous parlez de rupture, de politique de rupture. Reste à savoir si c'est une rupture vers la gauche ou vers la droite.
C'est marrant parce qu'en fait, ne serait-ce que dans le propos balayé, on a l'impression, mais c'est la force de Macron, en fait. Je pense que c'est vraiment issu, c'est quelqu'un qui est issu de la com, qui travaille énormément là-dessus. Et on a l'impression qu'il est arrivé hier matin. Et qu'avec Lecornu, ça y est, c'est une nouvelle ère, quelque chose où on apprend le dialogue. Le dialogue social, Macron, ça fait 8 ans qu'il est président de la République.
Et il y a 8 ans que Sébastien Lecornu est
dans le gouvernement. Ça fait 8 ans que Lecornu est au gouvernement.
Ce que je voudrais te dire, c'est que tu as oublié que Macron était socialiste quand même. Et ça, c'est, vous avez tendance à oublier ces choses-là.
J'oublie rien, mais pour être membre du Parti Socialiste, il faut avoir payé au moins une année de cotisation. Macron ne l'a jamais fait. Donc en fait, qu'il était dans un gouvernement socialiste, indéniablement. Qu'il a été membre du Parti Socialiste, non, c'est pas vrai.
Un jour il dit qu'il est socialiste, un autre jour il a dit qu'il n'a jamais été socialiste.
La réalité, c'est qu'on ne peut pas revenir sur l'aspect de 2017, mais moi simplement, on a l'impression vraiment à chaque fois qu'il y a des bouleversements, des changements, que Macron est arrivé hier matin. Ça fait déjà 8 ans qu'il est là, il est un des responsables de ce déficit aussi grand que connaît l'État français. Lorsque vous prenez comme mesure la suppression de la taxe d'habitation, lorsque vous prenez comme mesure la suppression de certaines formes de taxes foncières, la suppression de taxes sur certaines entreprises, lorsque vous faites des cadeaux fiscaux aussi importants, lorsque vous asséchiez en fait les recettes de l'État, et bien au bout d'un moment, lorsque vous réduisez pas vos dépenses, et bien au bout d'un moment, ça ne tient pas au niveau budgétaire. Et donc là, Macron, il montre, j'allais dire, ces choix politiques qui ne sont pas les nôtres. Nous, lorsqu'on fait un contre-budget, je ne sais pas s'ils sont contents. Parce que les Français, ils voient la démission de leur service public. Tu le disais, et à juste titre, permets-moi, vous disiez par contre, vous dites, et à juste titre, que les Français sont malheureux, que les Français sentent mal. C'est vrai, les Français n'ont jamais été dans une période aussi délicate, mais ils s'en sentent mal de ne pas avoir le service public de proximité qu'ils désiraient, de ne pas avoir l'accès aux soins qu'ils voulaient, de ne pas avoir accès à tout ça. Et qui est responsable de ça, si ce n'est les diminutions des recettes de l'État créées par Emmanuel Macron? Donc je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que les Français soient contre l'opposition, sont contre l'imposition, bien au contraire. Mais par contre, ils sont pour que l'imposition soit utile à leur quotidien et puisse aller dans l'amélioration et dans l'amélioration de leur quotidien. Lorsque nous, on propose quelque chose, et je vais aller très court parce que Eric me fait signe, ce que ne voit pas l'auditeur. Mais je vais essayer d'être très court.
Ça va dans le sens de la question que je voulais vous poser, alors allez-y.
Je vais essayer d'être plus bref et plus direct. On a un échec du gouvernement. Et la reconnaissance de l'échec, elle se fait aussi par la dissolution de Macron suite aux européennes. Il fait le constat de l'échec de sa gouvernance. Et au lieu de changer de cap en nommant un ministre de gauche, il réitère son échec en nommant, en l'occurrence, Le Cornu. Le Cornu, en réalité, les premières annonces, au moment où on parle, les premières annonces fleurissent sur les potentiels membres ministres du gouvernement. Bah, il se trouve que c'est quasiment le même. C'est quasiment le même. On reproduit à l'intérieur le ministre en place, on met à la culture la même personne en place, à la santé la même personne en place.
Le gouvernement n'est pas encore nommé.
Il n'est pas nommé, c'est en pleine discussion, mais c'est tous les ballons d'essai qui sont donnés à la presse, comme on a l'habitude maintenant de voir comment c'est gouverné en France, c'est-à-dire balancer des ballons d'essai à la presse où on donne quasiment les noms du ministre sortant pour habituer l'opinion publique à ce que ça ne change pas. Donc on essaye de nous parler de rupture, mais sans réel changement. On découvre l'importance du dialogue social. Pardon, il y a eu un conflit des retraites sans précédent dans ce pays, avec la réforme Borne. Ils n'ont pas été entendus ni même écoutés. Le conclave qui a été mis en place pour écouter la réforme des retraites avec Bayrou n'aboutit sur rien. En fait, on est en train de faire croire qu'on est en train de changer de méthode. Or, il va s'avérer, et je crois que c'est ainsi que l'avenir s'écrira, que c'est en réalité la même méthode qui est mise en place. Donc moi, j'en ai marre d'entendre que Emmanuel Macron ressent le sentiment des Français qui vont mal, etc. Enfin, tous les sondages à longueur de temps parlent de ça. Qu'est-ce qui bloque en France? Et je prends le sondage de l'IFOP ce matin, et je termine là-dessus. Pardon, je termine juste là-dessus. Le malaise des Français qui est profond, 51% des Français se disent révoltés par la situation économique et social du pays, et on a 12% qui se déclarent confiants. Donc, quand on a des indices de la telle sorte au niveau des sondages, la photographie du moment...
Ça correspond un peu à la cote de popularité d'Emmanuel Macron.
Tout à fait. Donc, à un moment donné, on ne peut plus tenir ce genre de
propos. En tout cas, ce que je retiens de votre intervention, c'est que certains ont cru voir dans les premières annonces de Sébastien Lecornu une peut-être possible infection à gauche de la politique du gouvernement. Ben vous, ce que vous répondez, ben dans ce cas-là, il fallait nommer quelqu'un d'autre de Sébastien Lecornu.
Mais qui mettent en place attaque Zucman, et là, on pourra dire.
Effectivement, on va en parler. Jean-Baptiste Scora, vous voulez réagir?
Oui,
à ce
moi,
que
je suis atterré et je me demande, enfin, atterré et puis inquiet sur le peu de mémoire du PS. Bon, que vous savez qu'au niveau national, je ne suis pas du tout pour M. Macron. Mais d'accabler M. Macron sur le déficit, certes, il y a eu une augmentation du déficit.
Un milliard, hein.
Oui, peut-être. Sauf que ce déficit, on se le traîne
1000 milliards, pardon, 1000 milliards.
Mon voisin n'était pas né, mais depuis 81, quand il y a eu les 35 heures, quand vous avez eu la retraite à 60 ans.
Pas 80, les 35 heures.
Oui, enfin, c'est arrivé...
Les 39 et 35, dire,
voilà.
Oui.
Hein, donc, la retraite à 60 c'est arrivé ans, avec, oui. Ce que je veux dire, oui. C'est que globalement, avec la retraite à... Et ça, on se le traîne depuis 40 ans. Et le mal, il est là. Les premiers problèmes sont arrivés par ça. Donc, il va bien falloir qu'on se mette à retraiter ces choses-là, et ce mal-là. Le problème de la retraite, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un sujet qu'il va falloir remettre sur la table.
Et je crois faut faire attention de ne pas mourir en bonne santé quand même.
Je suis d'accord, peut-être, sauf que si vous voulez, personne ne dit aux gens, quand ils vont prendre leur retraite à 60 ans, qu'ils vont avoir 500, 600, 700 euros de retraite ou un minimum. Et ça, on est en train de créer des pauvres. Et ça, c'est inacceptable. Vous qui voulez défendre, effectivement, le pouvoir d'achat, etc., c'est pas en faisant ça que vous allez le défendre.
Ulrich Terrier, quand vous parlez de politique de rupture, vous pensez que ça pourrait être une rupture avec une inflexion plutôt à gauche de la politique du gouvernement ?
Bon, mais déjà, moi, je suis quand même très en colère contre le Parti Socialiste qui nous donne aujourd'hui des leçons et qui est allé faire alliance à deux reprises avec la France Insoumise. Ça ne les a pas du tout dérangés. Et donc, aujourd'hui, ils viennent pleurer en disant que c'est tout de la faute d'Emmanuel Macron. Ils ont été quand même au pouvoir avec Mitterrand, avec François Hollande, qui a fini, on ne va pas l'oublier, avec une cote de confiance bien en deçà de celle qu'a aujourd'hui Emmanuel Macron après 8 ans de pouvoir. Donc avant de venir donner des leçons, il faut quand même regarder devant sa porte. Donc moi, je pense sincèrement que Sébastien Lecornu est une personne qui veut ouvrir le socle gouvernemental. Si le Parti Socialiste aujourd'hui n'a pas de Premier ministre, c'est parce que la dernière fois, ils n'ont pas souhaité qu'un des leurs, et c'était Bernard Cazeneuve qui était envisagé, soit Premier ministre parce que il n'était pas visiblement assez à gauche pour leur attelage avec les écologistes, le Parti communiste et surtout la France insoumise. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'ils n'oublient pas non plus qu'on n'a pas eu de budget à cause en partie d'eux, puisqu'ils n'ont pas voté le budget et ils ont en plus renversé Michel Barnier. Ils ont ensuite voté la censure à François Bayrou. Donc voilà, aujourd'hui, il faut quand même leur rappeler tous ces éléments qui ont fait que ça alourdit aussi la
pardon,
dette.
Pardon, hein, là je corrige parce qu'il y a quand même quelques énormités. Non,
rapidement, s'il vous
plaît. Le budget, pardon, hein, le budget, on n'a pas renversé Barnier suite au budget. Hein. Pas le Parti Socialiste, hein, pardon. Hein. Excuse-moi.
Vous avez voté une première motion de censure.
La motion de censure, c'était pas sur le budget.
Oui, bah,
le budget, c'était Bayrou qui devait le mettre en place et qui l'a mis en place. Et en l'occurrence, à l'époque, on avait donné la chance à son produit avec Bayrou, puisqu'on avait essayé justement de rendre le budget moins austère et on avait un petit peu réussi. Moi, je reviens simplement sur ce qui a été dit parce que si on en va à des accusations d'alliance avec la France, mais bien sûr. Bien sûr que face à la menace de l'arrivée de l'extrême droite à la tête du pays, bien sûr que on avait tout mis en place pour éviter que cette menace arrive.
Ouais, et par ailleurs,
je ne crois pas que ça. Je ne crois pas que ça a généré Renaissance, puisque les coups de fil de Gabriel Attal à Olivier Faure pour lui permettre de s'associer sur le front républicain du deuxième tour, où il y a même eu des gens qui votaient France Insoumise qui se sont mis à voter pour Renaissance mais pour ça, éviter de faire barrage à l'extrême droite. Excuse-moi, je crois pas qu'il y ait eu à ce moment-là quelques...
C'est un sujet qu'on a déjà abordé, retraité et re-retraité.
Voilà, je préfère être très honnête.
Parlons du présent. Alors, parmi les mesures que Sébastien Lecornu...
Et par ailleurs, on a voté Macron au second tour, hein, face à Marine Le Pen.
Semble ne pas écarter, vous en avez parlé Mathieu Sauce, il y a la possible instauration de ce qu'on appelle la taxe Zucman, du nom de cet économiste qui l'envisage. Donc c'est une imposition des plus riches qui aujourd'hui est soutenue par les partis de gauche, dont le Parti Socialiste, et qui consisterait à faire payer un impôt annuel minimum de 2% de leur patrimoine à ceux qui disposent d'au moins 100 millions d'euros de fortune. Et avec ça, on espérait un gain de 15 à 25 milliards d'euros de rentrée fiscale. Alors même si cette mesure, a priori, ne serait sans doute pas retenue telle qu'elle, est plutôt instaurée dans une version allégée, est-ce que vous croyez, est-ce que vous souhaitez que le nouveau Premier ministre puisse se résoudre à demander un effort supplémentaire aux plus fortunés de nos concitoyens, sous une forme ou une autre ?
Alors, il se trouve que cette mesure, elle est déjà votée. Hein. Elle a été votée par l'Assemblée nationale. Elle est retoquée par le Sénat et elle doit revenir à l'Assemblée nationale. Mais elle n'est pas instaurée. Mais elle a déjà été votée par une grande partie de la majorité nationale. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure qui va au-delà du simple représentation d'une mesure de gauche. C'est une mesure où, au sein de Renaissance, certains sont d'accord avec cette mesure. En fait, c'est une mesure de bon sens. C'est demander aux gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, soit en l'occurrence 1500 foyers. Hein. Alors, on va me parler d'exil potentiel, d'exil fiscaux, de gens qui vont quitter la France, ça n'existe pas. Alors ça, il y a eu une enquête qui a été menée par les services de l'État. Alors je ne sais plus si c'est par le Conseil économique et social ou par... mais on voit que c'est peanuts, les gens qui quittent la France sur ces revenus-là.
Après, il y a des conséquences de l'instauration de cet impôt. Est-ce qu'ils vont continuer à investir en France?
Il y a quasiment personne qui quitte la France. C'est 2%. C'est 2%, et ça va concerner 1500 foyers qui ont 100 millions d'euros de patrimoine. Donc en fait, on va demander à des gens, et je pense, mon premier exemple, et ça fait même le lien avec le sujet numéro 2, mon premier exemple, c'est Bolloré. Bolloré, il a apparemment chevillé au cœur ce patriotisme français un peu nationaliste sur les bords, mais quand on demande d'ouvrir le portefeuille pour permettre d'aider à la nation française d'aller mieux, là il y aurait un problème. On parle de 2% du patrimoine, c'est peanuts pour eux. 2%, c'est quand même pas énorme, mais ça permettrait de gagner 15 milliards. 15 milliards, ça veut dire que pour contrebalancer, 15 milliards, ça peut être réinvesti sur, par exemple, l'amélioration des hôpitaux publics. Ça peut être investi sur de la création de richesses avec, pourquoi pas, un petit peu plus donné à ceux qui ont moins et pour permettre un petit peu d'améliorer les fins de mois et surtout de leur permettre de devenir aussi des consommateurs qui réinvestissent après dans l'économie française et qui font que la balance commerciale s'améliore. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites avec ces 15 milliards de récupérés. 2% sur 1500 foyers qui gagnent plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et bien, vous savez à combien les Français donnent la taxe Zuckmann ? À combien les Français ? 86% des Français réclament la taxe Zuckmann. Voilà. Et ça vient de partout. 90% des sympathisants de Renaissance. 89% des sympathisants de LR. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP. Le sondage a été présenté d'ailleurs à Lecornu.
Est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu pourrait militer pour qu'on instaure cette taxe
J'espère. Je n'en sais rien. On n'a pas encore les résultats des différentes réunions avec les différentes forces politiques.
En tout cas, Jean-Baptiste
Scorat. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure. C'est les 40 ans de gestion socialiste. Taxer, taxer, taxer. C'est leur façon de gérer.
Il faudrait que tu me donnes les 40 ans.
Depuis les ères Mitterrand, c'est que vous augmentez les impôts. C'est comme ça qu'on y est. Alors qu'il faut savoir gérer. Et gérer, c'est important. Donc gérer, ce n'est pas se servir effectivement de ceux qui gagnent plus, qui peuvent investir dans l'entreprise, ou de l'ensemble des Français qui sont imposés à des taux vraiment inacceptables, de pouvoir se servir de ça pour gérer un pays. Gérer un pays, ça veut dire que il faut qu'on regarde son train de vie, le train de vie de l'État déjà, et qu'on travaille sur ce train de vie de l'État. Je reviens sur ce que je disais en particulier sur les avantages de dans certaines catégories de fonctionnaires. Je parle en particulier...
Mais Jean-Baptiste, soyons quand même conscients. L'État actuel de nos services publics.
Mais l'État actuel de nos services publics, il faut savoir les gérer. Et il y a des choses à faire. On a créé, recréé des tas d'établissements, de services publics, etc., qui ne servent à rien. Il y a un moment où il faut arrêter de se dire qu'on va taxer, on va pas taxer, il faut pas taxer, il faut arriver à gérer. Et ça, le problème, il est là, d'attaquer Bolloré, etc. Je pense que Bolloré a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la France, beaucoup, beaucoup pour notre pays, d'aller taxer, entre guillemets, les riches. On y englobe tout dedans. On y englobe leur patrimoine, mais on englobe leur entreprise, etc. Il y a un moment où l'entreprise, elle leur appartient pas. L'entreprise, elle appartient à l'économie française. Donc d'aller taxer encore une entreprise là-dessus, ça va pénaliser. Donc je crois que...
Mais c'est pas l'entreprise qui est taxée. On parle bien du patrimoine.
Ouais, mais le patrimoine, il y a les entreprises dedans.
Donc c'est l'ISR.
Mais sauf qu'il y a l'entreprise dedans. Donc il faut... Si c'est que le patrimoine, je dirais... fiscal ou de l'immobilier.
Lorsqu'il y a une politique publique qui est amenée, par exemple, une mairie décide de quelque chose, la mairie regarde si elle a les recettes en compétence. D'accord. Y a-t-il pas des augmentations d'impôts de temps en temps parce qu'il y a une politique à envisager ?
Entre l'augmentation d'impôts de temps en temps et la taxation systématique de se dire on va régler ce problème en taxant les uns et les autres,
mais
moi je ne crois pas.
C'est pas ça, c'est l'effort qui est demandé.
Je veux pas que ça vire un dialogue entre vous deux, s'il vous plaît.
Je laisse la parole à
Ulrich Terrier, vous voudrait s'exprimer, je lui donne la parole maintenant.
Je suis désolé.
Alors, chez Renaissance, on est toujours favorable à la justice fiscale et également financer, comme vous le disiez, les services publics, l'hôpital public, etc., avec de la croissance. Parce que c'est que par la croissance qu'on va réussir véritablement à améliorer la vie des Français. La taxe Zuckmann, pour bien l'expliquer, c'est une taxe qui va également taxer le patrimoine des entreprises. Et c'est là la problématique. C'est-à-dire que les personnes vont arrêter d'investir puisque l'investissement qu'elles auront fait, elles vont devoir le revendre. Et donc, il n'y aura pas suffisamment de capital pour pouvoir continuer à investir dans ces entreprises. Le patron de BPI France, donc c'est-à-dire la banque d'investissement public française, trouve que cette taxe est délirante. Et elle serait en plus inconstitutionnelle, pour le rappeler quand même à nos auditeurs. Et puis, nous sommes foncièrement d'accord pour à mettre à contribution les hauts patrimoines, donc soit par la taxation des holdings, soit par une contribution différentielle sur patrimoine, mais pas venir casser la croissance et venir casser l'investissement, parce que ça ne produira que cela. Et puis, encore une fois, et on ne l'a pas évoqué, mais l'ERN, sur cette question, se cache, puisqu'ils n'ont pas dit s'ils étaient pour ou contre. Ils s'arrangent bien, puisqu'ils essayent de faire ami-ami avec les patrons. Encore une fois, là, vous nous parlez d'une mesure qui a été érigée en totem, sauf qu'aujourd'hui, il faut faire des compromis, avoir des ouvertures. Nous sommes prêts à taxer les hauts patrimoines, comme je viens de le dire, mais pas avec cette taxe qui va pénaliser l'économie française et qui va donc pénaliser, en fin de compte, les Français.
Alors, on n'a jamais autant défiscalisé et permis aux entreprises, on a retiré toutes les taxes potentielles aux entreprises. Est-ce que la France va mieux? Parce qu'à un moment donné,
la richesse...
Ah ouais, il y a moins de chômage.
Sous Hollande, il était à 12%, avec nous, il est descendu à
4%.
Parfait. Il y a plus de chômage et il y a 9 millions de pauvres, par contre, supplémentaires. Non, mais il faut faire attention avec ce qu'on dit. La problématique du chômage...
Tu ne parles pas de gestion, c'est la plus importante, c'est de gérer, ce que dit mon voisin, effectivement. C'est la croissance qui va nous aider à réduire le déficit.
La gestion,
pas autre chose.
Taxe Zuckman, 15 milliards de prix.
Taxer, c'est pas une gestion de taxer.
Mais de taxer, c'est trouver des recettes.
Enfin, c'est trop facile.
Ah, c'est trouver des recettes.
Dans une entreprise, elle fonctionne par chiffre d'affaires qu'elle génère.
Donc ah oui, c'est pareil. Super. L'État ne peut pas générer de chiffre d'affaires.
Elle peut générer et aider les entreprises.
L'État ne vit que parce que il y a la croissance, mais la croissance, c'est parce qu'elle est taxée qu'elle rapporte à l'État. Autrement, ça veut dire que le marché vivrait bien, mais d'un autre côté, les services publics vivraient mal et il y aurait une instabilité potentielle dans le contrat social qui est signé.
Il va falloir arrêter ce débat parce qu'on part dans d'autres directions. Le sujet est fort intéressant, bien sûr, mais on l'abordera peut-être ultérieurement dans un autre numéro. Pour l'instant, ce qui va nous donner une indication sur la politique que pourrait mener Sébastien Lecornu, c'est le gouvernement qui va former. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Peut-être qu'il sera annoncé d'ici la prochaine mêlée de l'info. Pour nous, le moment est venu de faire la pause dans cette émission. Retour à l'antenne d'ici une vingtaine de secondes pour un deuxième débat avec les trois invités de cette émission.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Et nous revoici avec mes trois invités, Mathieu Sauce, Jean-Baptiste de Scorail et Ulrich Terrier, pour débattre d'un sujet qui cristallise toujours autant les oppositions et même les passions, celui de l'immigration. Le débat précédent était passionné, je crains que celui-ci puisse l'être aussi, mais tant mieux après tout. Il se trouve que Philippe de Villiers a lancé il y a une dizaine de jours une pétition pour exiger l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Et que cette pétition aurait déjà recueilli à ce jour plus d'1,5 million de signatures, ce qui est énorme, surtout en si peu de temps. Cette initiative est soutenue et mise en avant par les médias du groupe Bolloré. On en parlait aussi il y a quelques instants, comme le Journal du Dimanche, la chaîne CNews ou Europe 1, alors qu'elle a plutôt été ignorée au départ par les médias de gauche. Devant le succès qu'elle rencontre, et dont se targue Philippe de Villiers, les seconds commencent maintenant à réagir et critiquent vivement la manière et la méthode utilisées pour recenser les signataires, leur nombre étant artificiellement gonflé selon eux. De votre côté, est-ce que vous suivez cette affaire de près? Et pensez-vous qu'il faut être attentif aux résultats de la pétition lancée par Philippe de Villiers, Jean-Baptiste de Scorail? Est-ce que vous vous intéressez à cette initiative?
Alors, oui, je m'y intéresse parce que les Français s'y intéressent. D'aller faire croire qu'elle n'a reçu ou que les pétitionnaires sont des faux pétitionnaires, etc., je pense que c'est faux. On le voit sur le terrain, le nombre de personnes qui me disent « j'ai signé cette pétition » et de manière extrêmement importante. Moi-même, je ne l'ai pas signé, alors que effectivement, on a vu que un de nos cadre des Républicains l'aurait signé,
Laurent
Wauquiez. Je ne l'ai pas signé parce que je trouve que, personnellement, à titre personnel, je trouve que c'est un sujet qui est important et grave, qu'il faut mettre en avant, mais je pense que mon côté humain, je pense qu'il y a un peu de manque d'humanité dans la façon dont est posée la question. Mais là-dessus, je crois que c'est quand même une question importante. D'autres présidents de la République avaient lancé des questions importantes, étaient partis suite à la réponse. Et donc, j'aimerais bien que nos hommes politiques aient un peu de courage et peut-être tiennent compte, même si ce n'est pas dans leur vision des choses, de référendums ou de demandes de référendums qui sont faites par X ou Y. Je pense que quand même, Philippe de Villiers, effectivement, est une personnalité quand même importante, très intelligente, tout le monde le sait, qui est beaucoup et qui a son... La France chevillée dans le corps, je pense qu'il n'a pas fait n'importe quoi en faisant cette pétition. Maintenant, laissons, entre guillemets, cette pétition aller jusqu'au bout. Et surtout, ayons, je dirais, le courage politique d'accepter, effectivement, le résultat de cette pétition, si elle a été faite, effectivement, dans la régularité, c'est clair. Et peut-être prendre des décisions après pour questionner les Français sur des sujets qui sont pour eux très importants.
Alors le titre de cette pétition, c'est « Sauvons la France, exigeons un référendum sur l'immigration ». Et Philippe de Villiers vise les 2 millions de signatures. Bon, il serait déjà à plus d'1,6 million, je crois, au moment où nous nous parlons. Je rappelle que la pétition pour la loi Duplomb avait recueilli 2,1 millions de signatures. Ulrich Terrier, est-ce que vous suivez, vous, le déroulement de du nombre de signatures, donc aujourd'hui plus d'1,5 million?
Comme tout Français qui s'intéresse à la chose politique, bien sûr que je suis cette pétition. Alors, avant tout, j'aimerais dire quand même que la pétition qui a été lancée donc, par Philippe de Villiers a été prouvée que c'était une façon d'aider M. Bolloré pour obtenir des informations sur les signataires et vendre des abonnements de ces journaux.
Il n'a pas besoin de ça. Il faut cocher une case quand même pour que les informations remontent. Donc on n'est pas obligé.
Je pense que c'est trop facile et arrêtons d'accuser Bolloré de tous les maux en France.
Ouais.
Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une opération commerciale derrière cette pétition. Et je dis malheureusement, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immigration est un problème qui est soulevé par beaucoup de nos concitoyens. Et donc, il faut y répondre, puisque sinon, ça va nourrir le Rassemblement national, les extrémismes, Zemmour, etc. Donc, voilà. Moi, je pense que ce n'est pas simplement avec un référendum qu'on va pouvoir régler tous les problèmes, puisqu'il faut quand même savoir que ce référendum ne pourra pas avoir lieu, puisque ce n'est pas constitutionnel de faire un référendum conformément à l'article 11 de la Constitution sur l'immigration. Bruno Retailleau, au Sénat, quand il était président du groupe LR, avait déjà essayé de faire un référendum sur l'immigration. Elle n'avait pas pu aboutir, puisqu'elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc, au lieu de mettre des écrans de fumée comme celui-ci, je pense qu'il faudrait agir concrètement et arrêter de nourrir les populistes et mélanger tous les sujets en uniformisant ce qu'est l'immigration, alors qu'il y a plusieurs types d'immigration et qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. On a besoin d'un certain type d'immigration, celle notamment au niveau du travail, puisque pour aller ramasser nos fraises, nos raisins, etc., nous sommes bien contents d'avoir des personnes qui viennent pour le faire. Donc voilà, je tiens à dire que chez Renaissance, on veut plutôt parler d'immigration avec sérieux.
Oui, alors quand bien même un référendum serait constitutionnellement possible, vous ne seriez pas pour. C'est ce que je comprends de ce que vous avez dit.
Nous pensons que l'immigration doit être traitée autrement que par un référendum.
Mathieu Sauce, alors vous, est-ce que vous suivez? J'imagine que oui, alors, l'évolution du nombre de signatures de pétition.
Je vais être d'une honnêteté incroyable. C'est-à-dire que il se trouve que pour préparer l'émission, Eric nous envoie les sujets. Il se trouve que ça m'était passé totalement aperçu. Je ne suis pas un auditeur de CNews, ni d'Europe 1. Et comme c'est une pétition...
On en a parlé dans la presse bien ailleurs que sur...
Alors, on en a parlé bien ailleurs depuis ce matin, parce que jusqu'alors, c'était essentiellement les médias Bolloré. Et je rappelle que Bolloré, c'est aussi Paris Match. Je rappelle que Bolloré, c'est aussi la presse écrite. Et maintenant, il vient de racheter pratiquement l'équipe et il achète le Parisien. Donc, en réalité la concentration.
Assurément, la dépêche n'est pas si bonne.
Il y a deux choses. Il y a deux choses, pardon, excusez-moi. Il y a deux choses quand même qui me chagrinent dans cette affaire, tant la forme que le fond. La forme. Comparer la pétition sur la loi Dupont et cette pétition sur l'immigration, c'est faire une comparaison qui n'est pas honnête. Pour autant, je rejoins la chose, c'est-à-dire qu'en même temps, je me suis connecté pour voir cette pétition. Bah, il se trouve que n'importe qui peut la signer, mais pas n'importe qui. C'est-à-dire que la loi Dupont, il fallait quand même que l'adresse mail soit vérifiée, qu'elle appartienne vraiment avec une adresse IP, que l'adresse IP soit couplée avec un nom, donner aussi d'autres renseignements, etc. Il se trouve que moi, la loi Dupont, je l'ai signée. Cette pétition sur l'immigration, c'est farfelu au total. On peut signer 100 fois, 1000 fois, 200 fois, etc. Il se trouve que cette pétition, les taux de signature de pétition correspondent à peu près aux 2, 3 heures, 5 heures, 6 heures d'antenne consacrées à la pétition sur les antennes de Bolloré, sur les différents médias qui appartiennent à Bolloré. Donc c'est la pétition Bolloré. D'ailleurs, preuve en est, il y a un petit truc à cocher si on veut faire partie du mailing list de Bolloré. Donc je ne crois pas que ce soit une exploitation commerciale qui est derrière. Je pense que Bolloré a envie de faire de la politique et il ne s'en cache pas. La problématique, c'est que Bolloré, il fait partie d'un groupe. Il a plusieurs médias qui font partie normalement d'un groupe qui sont aussi soumis aux règles du CSA et qui normalement devraient viser vers l'impartialité. Ou alors, il faut se déclarer média d'opinion. Et ce en quoi ça devient un média militant et on sait d'où ça vient. Bon. Donc ça, premier problème de forme. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Mes propos, certes, m'encachent à moi. Mais j'ai aussi entendu d'autres personnes qui ne sont pas de ma famille politique, en l'occurrence du RN, tenir un peu ce type d'argument en disant que derrière, il y avait forcément une empreinte derrière.
Ah,
il se trouve
Marine
qu'ils
Le Pen
ont trouvé...
Pas voulu la signer, effectivement.
Bien sûr, Marine Le Pen n'a pas voulu la signer et elle a dénoncé, au contraire, cette forme que prenait cette pétition et son manque de sérieux. Il se trouve que derrière la candidature Bolloré, ça fait des années et des années, quand vous lisez aussi les bouquins qu'il y avait écrits sur Bolloré, qui cherche un quinquin, une figure de pro qui puisse monter ses idées pour la France, ses idées qui lui appartiennent. En l'occurrence, il l'a trouvé avec De Villiers, qui était disponible et qui faisait depuis longtemps éditorialiste chez CNews. Voilà, il le met en épingle et il le fait monter par l'intermédiaire de cet aspect pétitionnaire. Ensuite, sur le fond, à chaque fois que la France va mal, il est bien trop simple de parler d'immigration. Ce n'est pas quelque chose fait en sorte que la France va mal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les taux d'immigration en France sont à peu près l'équivalent de ce qu'il y a dans les autres taux d'immigration des pays européens, dans les taux d'immigration, etc., etc. On a l'impression d'avoir du mauvais trumpiste. Hein, on a l'impression d'avoir les mêmes politiques que Trump, c'est-à-dire que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu la chasse à l'immigré, il y a encore la chasse à l'immigré aux États-Unis, et les États-Unis ne se portent pas forcément très bien en ce moment.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, l'immigration, peut-être les taux d'immigration, je ne peux pas les vérifier pays par pays, peuvent être les mêmes en France qu'ailleurs. Est-ce que pour autant, dans les autres pays, il n'y a pas de problème par rapport à ça?
C'est un problème européen, l'immigration.
Vu ce qui s'est passé en Angleterre récemment, on pourrait penser que malheureusement...
Il y a un moment, il faut arrêter. J'ai toujours dit que c'était trop facile de donner un coup de pied aux fesses des gens pour qu'ils retraversent effectivement la Méditerranée ou ailleurs. C'est un problème sérieux qu'il faut travailler. Donc cette pétition peut-être peut nous amener à travailler ce problème de l'immigration. Il faut en tenir compte. Les Français, juste, je vais aller sur un sujet.
Sais-tu la vraie pétition sur l'immigration? Combien elle a de personnes qui ont réellement signé à 35 000 personnes.
Sauf que...
35 000
non,
personnes.
Non, mais après, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas signé cette pétition, je ne la signerai pas. Mais ce que je vois aussi, c'est que les Français, entre guillemets, il y a un réel problème avec... des sans-papiers, des gens qui sont sans-papiers, qui sont aussi délinquants. Alors, je ne veux pas tout mélanger, parce que c'est...
Mais des OQTF
sauf que nous avons des sujets extrêmement importants. J'écoutais tout à l'heure la maman de la petite Philippine, je crois, c'est ça, qui a témoigné de façon incroyable par rapport à la mort de sa fille et le traitement de ce dossier-là, qui est quand même tragique. Alors, je ne veux pas, effectivement, mettre tout ça sur le dos de l'immigration, mais il y a quand même un certain nombre de sujets, en particulier sur les OQTF. que l'on doit traiter et que l'on ne traite pas. Peut-être que cette pétition permettra enfin d'arriver à ce que nos gouvernements défendent d'abord les Français de certaines choses, de certains problèmes que peuvent amener l'immigration. Mais attention, il faut d'abord traiter le problème de base. Et je crois qu'effectivement, nous devons continuer à recevoir une immigration. Mais il faut que cette immigration, elle soit à la fois raisonnée et à la fois, je dirais,
choisie
un peu. Oui, choisie. Parce que je pense qu'on n'a plus les moyens à l'heure actuelle d'ouvrir la France à toute la misère du monde. Je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'était Rocard, non,
oui,
qui disait
Rocard,
ça, non,
oui.
Voilà, donc un Rocard qui n'était pas de droite, je crois.
Ulrich Terrier, est-ce qu'on peut quand même poser la question d'immigration, est-ce que c'est un sujet qui peut mettre sur la table, qui peut donner lieu, si c'est un référendum, à un grand débat national?
Je pense que l'immigration ne doit pas être un sujet qui doit être laissé de côté, qui doit être laissé qu'à Marine Le Pen, au Rassemblement National et à M. Zemmour.
On voit le résultat. Hein.
Tout le monde doit s'emparer de ce sujet et faire des propositions concrètes pour pouvoir avoir enfin une immigration sur laquelle nous sommes d'accord et nous pouvons la contrôler, puisque nous, chez Renaissance, nous pensons que quand nous accueillons des personnes, il faut les accueillir dignement. Il ne faut pas accueillir des personnes pour les laisser dans la rue, et ensuite, on le voit malheureusement, ça crée des drames, et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Je dois quand même dire que je m'étonne que Laurent Wauquiez s'associe à cette pétition, puisque Laurent Wauquiez, qui est chez LR, vient signer une pétition qui ne pourra jamais aboutir sur un référendum, puisque comme je l'ai dit, ce n'était pas constitutionnel. Et si aujourd'hui Marine Le Pen n'a pas signé cette pétition, c'est parce qu'elle a bien compris que cela ne pouvait pas aboutir et qu'elle n'a pas envie de se faire d'ombre également avec d'autres potentiels concurrents à l'extrême droite.
Mathieu Sauce, alors est-ce que le sujet peut être mis tout de même sur la table? Qu'est-ce qu'on en pense au Parti Socialiste? Quelles sont d'ailleurs vos propositions au PS sur ce sujet?
Alors nous, il se trouve qu'au Parti Socialiste, ça fait maintenant plus d'un an, et demi, on a lancé un truc qui s'appelait « La France, parlons-en ». Et alors on sait, notre premier secrétaire national s'est déplacé dans différentes communes, différentes villes, avec l'aide de statisticiens, de gens dont c'est le métier, de recueillir la parole des Français. Et on s'est mis à écouter les Français. Avant de produire quelque chose, avant de produire un programme pour la présidentielle, on a écouté. Et lorsqu'on écoute les Français, ça ne ressort pas de façon évidente cette problématique de l'immigration. Ce qui ressort de façon évidente, c'est le pouvoir d'achat. C'est, ça, c'est la possibilité de retrouver un service public près de chez soi. C'est la possibilité d'avoir accès aux soins. Vous vous rendez compte quand même qu'on est... on parle de la France. Moi, à titre individuel, hier matin, il se trouve que je cherchais des médecins parce que mon médecin traitant, comme ça arrive, je crois, ça va arriver à 46% des médecins traitants toulousains prend sa retraite. Et impossible de me trouver un médecin.
Ouais, ça, c'est
moi, Mathieu Sauce, qui est en capacité un peu intellectuelle de prendre un téléphone, d'appeler, de chercher, de trouver.
C'est Renaissance qui a enlevé le numerus clausus que vous n'avez pas fait.
On s'en moque. Là, ce n'est pas l'idée.
Ah ben si, on va avoir plus de médecins dans 10 ans.
Non, ce n'est pas l'idée de ça. L'idée, c'est de savoir quoi? C'est de savoir que... Bah oui, mais enfin, les déserts médicaux, on pourrait en parler aussi. Ça donnerait lieu à une autre émission. Je ne rentre pas dans le sujet. Parce qu'il y avait la problème de réguler aussi l'installation des médecins. Il y a tout ça qui se joue en jeu. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité de parler réellement des vrais problèmes qui touchent les Français et d'améliorer leur quotidien. Et ça évitera peut-être aussi que les politiques soient autant désavouées, puisque 83% des Français désavouent leur politique, alors que 85% d'entre eux font quand même confiance à l'organisation territoriale et locale en termes d'organisation de la vie politique, et font confiance aussi à un certain nombre important d'entre eux, à leur élu de proximité. Donc je crois qu'il faut retrouver les chemins de la raison, et les chemins, je regarde l'heure en même
temps,
et les chemins, pardon, de répondre aux vraies préoccupations des Français.
Et pour vous, l'immigration n'est pas une des premières préoccupations des Français, pourtant il y a certains sondages qui le montrent.
Je ne le crois pas que ça soit le cas. Par contre, qu'on ait des politiques qui exercent comme un chiffon rouge la personne qui est différente, la personne immigrée, au lieu de tendre la main parfois, alors ça,
mais
oui,
parce que le
vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est aussi l'acceptation. Moi, non, je vous rappelle que lorsqu'il y a eu une guerre qui s'est déclenchée entre la Russie et l'Ukraine, on a su se mobiliser et tendre la main aux réfugiés ukrainiens. Et je ne le regrette pas que notre capacité à tous de pouvoir le faire, à ce moment-là, s'est exercée. Il faut savoir
tendre
que dans les pays,
à
travers le monde, il y a des gens qui souffrent, qui crèvent, et que leur seule opportunité, c'est de partir. Et je ne crois pas que ce soit une volonté de partir. C'est souvent un arrachement.
C'est une contrainte, bien sûr. La pétition de Philippe Duvillier, on va voir ce que ça va donner. Il s'est fixé le seuil de 2 millions de signatures. A priori, il va y arriver après qu'il y ait un référendum qui soit organisé sur le sujet de l'immigration. C'est une autre histoire. Il nous reste quelques minutes. Je propose de les consacrer à vos coups de gueule ou coups de cœur du jour. Eh bien, c'est Ulrich Terrier qui va ouvrir le bal.
Alors, moi, je voudrais parler des frais de représentation de Madame Anne Hidalgo, votre amie élue maire de Paris, puisque Madame Hidalgo a enfin donné des frais de représentation, puisque pendant des années, elle s'était opposée. Et puis aujourd'hui, on comprend pourquoi, puisqu'elle s'achète des robes Dior à 6 000 euros, des manteaux Burberry à 3 000 euros, des blouses Dior à 1 120 euros. Et donc aujourd'hui, quand le Parti Socialiste nous dit qu'il faut être plus exemplaire, qu'il faut faire des économies, eh bien on voit que en réalité leurs élus suivent des trains de vie bien plus élevés que les Français. Moi aujourd'hui, je m'interroge sur ces manières d'agir. Les Français, on leur demande de se serrer la ceinture. Ce n'est pas pour que des élus puissent aller dépenser des sous chez des marques de luxe. Voilà, je suis vraiment attristé par cette situation. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment contrôler les dépenses publiques.
Oui, alors...
Non, j'exerce pas un droit de réponse, mais simplement, je corrige. Malheureusement, c'est pas avec ces deniers... Parce qu'avec ces deniers, ça ne m'aurait pas dérangé.
Non, ça veut
par contre, elle l'a fait avec des remboursements de frais.
Oui.
Donc, en réalité, c'est parce que les maires ont le droit à des remboursements de frais. Il faudrait que ça soit exposé partout. Moi, oui, ça me pose problème.
Attendez, pour votre coup de cœur, votre coup de gueule, parce qu'il nous reste vraiment une minute, là.
Vas-y, Jean-Baptiste.
Moi, c'est cette espèce de caravane de bateau qui part
vers Gaza.
Je pense que M. Piquemal, qui est sur le bateau, ferait mieux d'être dans l'Assemblée nationale en train de s'occuper de ses concitoyens plutôt que d'aller essayer de s'occuper d'un sujet qui le dépasse. Et donc voilà, c'était mon coup de gueule de ce soir.
Mathieu Sauce, très très vite, si vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule.
Non, j'ai pas d'habitude, on dure un peu plus longtemps au niveau de l'émission.
Donc vous n'avez pas préparé.
J'ai pas de petits coups de gueule ou de petits coups de cœur. Des coups de cœur en ce moment, pourtant, ça serait bien utile parce que le moral des Français est en berne,
oui,
et il va falloir qu'on s'en occupe. Et je voilà, donc pas de coups de gueule, si ce n'est occupons-nous des Français.
C'est la fin de cette 200e mêlée de l'info. Un grand merci à vous trois d'en avoir été les invités. Je remercie aussi Coraline Camebrac à la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos auditeurs sans qui cette émission n'aurait pas atteint ce cap symbolique des 200 numéros. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.